RCF.
C'est un lieu commun que de dire que la France ne se réduit pas à Paris. Il y a bien sûr la province. On parle de la province et de son opposition à Paris, et dans ce mot « la province », on y sent souvent, parfois, une petite connotation dénigrante. Bien que certains, aujourd'hui, parlent de la revanche de la province, je ne suis pas toujours sûre que ce soit vrai. Stéphane Giocanti nous propose, pour réfléchir peut-être à cette opposition Paris-Province, un très bel ouvrage, un très bel essai qu'il a intitulé « La Renaissance du Sud, la grande épopée des littératures d'oc » aux éditions du CERF. Mais avant de commencer notre entretien, un petit clin d'œil à nos auditeurs qui peut-être reconnaîtront cette déjà ancienne chanson de Nino Ferrer, le Sud, puisque nous allons aller vers le Sud.
C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse, et c'est joli. On dirait le Sud, le temps dure longtemps, et la vie sûrement.
Alors, pas un million d'années, mais nous allons, en compagnie de Stéphane Giocanti, parcourir quelques siècles de cette extraordinaire littérature d'oc, de ces littératures d'oc et de ces langues d'oc. Car avant que nous ne parlions tous le français, un français assez uniformisé, pourrait-on dire, nos provinces, les provinces, avaient une langue, un dialecte. Certains disent même, de façon là aussi, un petit peu méprisante, un patois. Eh bien, nous allons nous rendre compte que ces dialectes, ces patois, ont fourni de grandes œuvres, de grandes littératures, et ce, depuis le siècle d'or, jusqu'à presque nos jours. N'est-ce pas, Stéphane Giocanti?
Oui, en effet, ce sont des langues, des parlers, des dialectes qui ont éclos au sein du monde linguistique gallo-romain. Ensuite, ce sont devenues des langues romanes et elles se sont singularisées, elles se sont personnalisées et ça a donné le gascon, le languedocien, le provençal, l'auvergnat, le limousin pour l'essentiel. Bon, après, il y a d'autres découpages possibles, le vivaro-alpin, etc. Mais de fait, c'est une construction linguistique qui s'est élaborée au cours des siècles sans recouvrir véritablement d'unité, surtout politique. Alors bien sûr, la distinction langue d'Oyle pour le nord de la France et langue d'oc pour le sud est relativement pertinente, mais avec à l'intérieur de très grandes différences.
Vous soulignez la diversité, finalement, de ce que l'on appelle de façon commode la langue d'oc. Peut-être faut-il dire, comme vous le rappelez à l'instant, les langues d'oc, qui d'ailleurs ont pu elles-mêmes évoluer depuis l'héritage romain, gallo-romain, jusqu'au moment où apparaît cette période extraordinaire de la littérature des troubadours.
Oui, en effet. Alors, ces langues ont évolué et puis elles ont donné naissance à partir du XIe et surtout les siècles d'or des troubadours, c'est le XIIe et le XIIIe siècle. Et là, ça va donner naissance à une floraison poétique et artistique absolument fabuleuse. Le premier grand troubadour, c'est Guillaume d'Aquitaine, Guillaume de Poitiers. Et puis, il y en aura donc bien d'autres, Rimbaud de Vaqueras, que j'ai mis sur la couverture de mon livre d'ailleurs, oui. Bertrand de Borne, Folquet de Marseille, etc. Et ce sont d'immenses artistes. On a parfois une vision un peu, non pas méprisante, mais enfin, quand on évoque les troubadours, parfois, on a l'impression que ce sont des gratteurs de cordes.
Alors un peu lièvre aussi.
Oui, c'est ça. Alors que ce sont, comment dire, Dante les considérait comme ses maîtres. Et parmi les deux maîtres que Dante revendique, il y a d'abord Arnaud Daniel, qui est un troubadour d'ailleurs d'une complexité extrême, et puis Guiraud de Borneil. Et donc il les considère comme ses maîtres, il en parle dans la Divine Comédie. Et au niveau de l'Europe entière, les troubadours fournissent vraiment un trésor littéraire qui est le premier au niveau européen. Et que ce soit en Italie ou en Espagne, je dis Italie-Espagne pour faciliter les choses parce que évidemment, historiquement, ça n'existait pas. Ces pays ont fait éclore également des poètes qui se sont inspirés des troubadours. Et les troubadours, d'ailleurs, vont nourrir l'imaginaire, notamment amoureux, quasiment jusqu'à nos jours, puisque non seulement on écrit sur les troubadours, mais on prend position, en quelque sorte, sur la codification de l'amour telle qu'on les trouve dans des poèmes ou des romans qui ont été écrits par eux.
Et dans le langage contemporain, dans le français contemporain, vous citez Alain Rey qui dénombre, je vous cite, 1613 mots originaires de la langue d'oc. Et il y a dans son célèbre dictionnaire, bien évidemment, une approche de cet apport linguistique des ou de la langue d'oc à notre français.
Absolument, et il n'est que de lire Rabelais, par exemple, et Montaigne pour se rendre compte de cette évidence. C'est que ces langues, j'en parle toujours au pluriel, on reviendra peut-être à pourquoi tout à l'heure, mais de fait, le gascon en particulier a nourri aussi les commentaires de Blaise de Montluc et même des mots de l'italien et de l'espagnol sont passés par le gascon pour entrer dans notre vocabulaire français.
Oui, donc quand vous parlez de Renaissance du Sud dans votre titre, il faut peut-être toujours avoir à l'esprit que ce Sud, ce Midi ou ce pays d'oc n'a pas disparu. Il a peut-être été écrasé, il a peut-être été éclipsé par la culture, voire la langue du Nord, celle que l'on a appelée longtemps la langue d'Oïle, mais qu'il y a eu une aura, il y a eu une influence culturelle, linguistique, peut-être même politique, considérable de ces cultures du Sud.
Oui, et même au-delà de la France, je cite un exemple, c'est l'exemple de l'alba, qui représente d'ailleurs une forme littéraire sur laquelle on a pas mal écrit. L'alba, ça désigne l'aube où les amants se séparent, ou sont séparés. Eh bien, vous voyez, dans Tristan et Isolde de Wagner, l'un des plus grands opéras qui ait été composé, eh bien, l'acte 2, c'est ça, c'est l'acte de l'alba, et donc Richard Wagner doit quelque chose aux troubadours. Il ne faut pas croire que cela n'intéresse que les méridionaux, les troubadours, ça va bien au-delà. Et on pourrait citer également Ezra Pound qui a écrit un ouvrage très intéressant sur les troubadours, T.S. Eliot, à qui j'avais consacré une biographie, qui se réfère plusieurs fois aux troubadours et qui les cite dans ses poèmes en anglais.
Oui, et donc cela me conduit à dire, peut-être me contredirez-vous, mais je ne pense pas que cette langue et cette culture d'oc ont une dimension universelle et non pas seulement, comme on pourrait peut-être le penser, régionale, régionaliste, voire folklorique.
Il en est de ce problème, enfin de cette, par rapport à ces langues, le problème est le même pour toutes les langues. C'est-à-dire que les esprits fermés, vous vous en trouverez partout. Il y a des gens qui s'expriment en français qui ont un esprit fermé, des gens qui s'expriment en anglais qui ont un esprit fermé, et puis d'autres qui ont un esprit ouvert. Ça, l'universalité, l'universalité, elle est possible à travers la littérature, à travers la poésie. C'est en elle que l'universel est possible. Je pourrais en donner des exemples. On parle de Frédéric Mistral, par exemple, pour la Renaissance, cette Renaissance du Sud. Il y a une lettre extraordinaire du président des États-Unis, Roosevelt, alors l'ancien Roosevelt, qui reçoit le grand poème de Mistral, Mireille. Il l'en remercie, il lui dit je l'ai déjà, mais merci de ce second exemplaire. Et vraiment, vous faites un travail formidable. Enfin, je résume. Mais voilà un exemple d'universalité. Et ce poème Mistral est traduit dans une vingtaine, si ce n'est une trentaine de langues.
Oui. Donc, loin d'être réservé à quelques esprits académiques, passionnés par ce mouvement littéraire et culturel, on a une universalité de cette œuvre et de l'œuvre de Mistral. C'est ce que vous voulez mettre en évidence, d'ailleurs, dans quelques chapitres. Ils sont au nombre de 12 de votre essai.
Pour faire la jointure avec nos amis troubadours, il faut dire que l'œuvre du Mistral est irriguée par le souvenir des troubadours, et que ce soit dans Mireille ou dans Calendau ou dans le poème du Rose, c'est-à-dire le poème du Rhône, il y a des figures qui rappellent de grands amoureux également des femmes dont il est question, et l'amour que chantent ces poèmes, ces épopées, est un amour qui vient de l'amour provençal ancien. On y retrouve toute une signalétique. Et quand on a lu un peu les textes des troubadours, on se sent chez soi quand on lit du Mistral.
Alors, écoutons quelques notes du Clemency Consort et nous allons être transportés dans cet âge d'or que nous allons évoquer tout à l'heure.
Ma il cabrù fughe di Gascugno, fil di no pauro fenno, cabionù mal cabruno, cumè l'udis en sun cantà. Ma il cabrù, fil di nabruno, fu engendrate in taroluno, che il sap d'amor cum se de gruno, escutas. Che giammai n'hai med neguno, ni d'altre fughetta i mat. Trubaire suet desprimies con se subent, de caitives vers e de caitives sirventes faguet, e diguet de mal de laifennos, et de l'amour.
Nous avons entendu le Clemency Consort, mais nous avons entendu aussi une langue qui peut-être est du provençal, vous me direz ce qu'il en est, car nous sommes là en plein cœur de cet âge d'or dont nous parlions tout à l'heure, Stéphane Jocanti.
Alors, il y a plusieurs problèmes. D'abord, comment appeler cette langue ? Il y a une véritable difficulté à la nommer, puisque tout au long du 19e et du 20e siècle, quand on les a redécouverts, les uns ont appelé ça du provençal ancien, d'autres même du gascon, d'autres du limousin, d'autres ont inventé la notion d'occitan ancien, qui est une sorte de fabrication, enfin de concept.
Une construction a posteriori. finalement.
Le plus correct, d'après Michel Zinc, qui a écrit un très bon livre sur les troubadours auquel je renvoie, le plus correct, apparemment, ce serait de dire que c'est du roman. C'est du roman, c'est-à-dire c'est de la langue romane, avec malgré tout des différences, parce que on a au XIXe siècle, on a cru que la langue des troubadours était une et que c'était une langue romane unifiée partout, c'est-à-dire du Piémont jusqu'à la Catalogne, jusqu'à Bordeaux. En réalité, au XXIe siècle plutôt, c'est contesté. C'est-à-dire qu'il y a des différences. Et puis il y a un autre problème, c'est le problème des copies. Parce que les textes des troubadours, c'était pas imprimé. Hein. Ça passait par des copistes qui étaient en général italiens, vénitiens et catalans. Et il y a forcément des interpolations, des erreurs et une difficulté pour les copistes à comprendre la langue d'origine. Et on voit bien ces différences à l'intérieur de la langue des troubadours. Si on lit, par exemple, il y a un roman magnifique que me permets de recommander à nos auditeurs, Flamenca. C'est un roman en vers. Bon, c'est traduit en prose dans la collection Lettres gothiques. Comme ça, vous aurez tout. C'est magnifique. C'est une femme qui est mal mariée et qui décide de punir son mari jaloux en se rapprochant de l'homme qu'elle aime vraiment. Et c'est un roman qui est écrit en rouerga ancien, mais avec des éléments auvergnats. C'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment parler d'unité linguistique. C'est un mythe.
C'est un mythe qui peut-être a été construit au XIXe siècle. Qu'en pensez-vous ?
Voilà, parce que c'est ça. La clé, c'est ça. C'est le réveil des nationalités. Et Frédéric Mistral, qui a lancé le Félibrige en 1854, il voulait voir si c'était pertinent pour la Provence. Et donc, il a rêvé. Alors, bon, en fait, il a surtout réveillé, lui, la langue provençale. Et il l'a poussé à un niveau de perfection absolument extraordinaire. C'est l'un des plus grands poètes du XIXe siècle, Frédéric Mistral. Et il a rêvé un petit peu à une sorte d'unité doc, mais ayant le provençal pour modèle. Donc il a proposé des solutions graphiques qui dérivaient finalement du provençal, mais qui étaient quand même suffisamment souples. Mais au début du XXe siècle, il y a eu un mouvement qui est apparu et qui est le mouvement occitaniste au début, qui était uniquement focalisé sur le languedocien, c'est-à-dire qu'il s'agissait de trouver une solution graphique pour le languedocien à l'aide du modèle ancien du XIIe, XIIIe siècle. Ensuite, après la Seconde Guerre mondiale, l'occitanisme est devenu hégémonique jusqu'à aujourd'hui. Et il prétend imposer au Sud entier une seule manière d'écrire finalement les langues en question. Et ça pose énormément de problèmes dont on pourra parler tout à l'heure. Mais de fait, vous voyez, il y a eu ces deux phases successives. Il y a eu le mistralisme qui était quand même assez souple, qui permettait quand même aux langues, à la diversité des langues de s'y retrouver. Et puis l'occitanisme qui, en revanche, impose un carcan linguistique beaucoup plus serré, beaucoup plus étroit et unitariste dans son fondement.
Et qui ne correspond pas ni à la diversité géographique, ni à la diversité culturelle. En effet, quels sont les points communs entre un Auvergnat et un Béarnais, du point de vue linguistique et même, je dirais, culturel ?
Alors, pour vous répondre, je vous dirais la différence qu'il y a entre un Béarnais qui parle le Béarnais de tous les jours et puis un Béarnais qui écrit plutôt en Béarnais occitanisé. Ah oui. Moi, j'ai rencontré des Béarnais, je ne suis pas Béarnais, donc je peux en parler très librement. J'ai rencontré des Béarnais qui parlent couramment le Béarnais, et quand ils lisent le Béarnais qui est fabriqué par l'Institut d'études occitanes, ils ne s'y reconnaissent pas. Il faut dire que leur langue maternelle ou la langue qu'ils ont retrouvée par leurs parents, leurs grands-parents, a également donné naissance à des œuvres tout à fait importantes. Je pense par exemple, il y a deux noms que je dois citer, c'est Michéo de Camelat, hein, Michel Camela, et l'autre c'est Simon Palay, qui a écrit un dictionnaire du gascon absolument fabuleux avec 77 000 entrées. Hein, c'est sidérant la richesse de ce dictionnaire. Donc il y a une littérature béarnaise en béarnais moderne, si vous voulez. Et le problème de l'occitanisme, c'est qu'il crée du pseudo-béarnais, c'est-à-dire en utilisant des racines étymologiques, etc., qui correspondent en fait aux langues d'Ossien ou à l'occitan moderne, enfin qui lui-même est un archaïsme. Et finalement, que se passe-t-il? C'est que les anciens ne peuvent plus lire les textes en béarnais occitanisé, puisque ça n'est plus leur langue. Et donc, c'est un véritable désastre, parce que ces langues ont du mal à survivre, hein, on va en parler. Eh bien, l'occitanisme crée une coupure, une cassure générationnelle.
Donc on perd ces langues natives, ces langues originelles dans lesquelles, par exemple, puisque nous allons revenir à eux, se sont exprimés, quelle que fût leur origine géographique, sociale, tous ces troubadours dont vous nous avez cité quelques noms tout à l'heure.
Eh ben, oui, alors il y a quand même un point commun chez les troubadours, c'est leur origine sociale, justement. C'est-à-dire que souvent, ce sont des petits seigneurs, ils appartiennent à la petite noblesse ou à la haute noblesse, hein, quand je parlais de Guillaume d'Aquitaine.
Bien sûr.
Alors qu'au XIXe siècle et au XXe siècle, on a affaire à une diversité beaucoup plus grande et que je trouve extrêmement émouvante. Parce que parmi eux, vous avez des professeurs, vous avez des paysans ou des propriétaires. Mistral, c'était un fils de grand propriétaire du Vaucluse.
Oui.
Et puis vous avez Baptiste Aubonnet, par exemple, qui était un valet de ferme. Il n'était rien socialement. Il a tout appris. Il a appris Mireille Parker. Il a appris le français en lisant la traduction de Mireille de Mistral. Vous vous rendez compte, quand il était au service militaire à Sidi Bel Abbès. Et puis vous avez un paysan authentique qui faisait de l'huile d'olive que tous les Provençaux connaissent encore. C'est Charloune Rieux, extraordinaire, qui passait sa vie de village en village et de ville en ville à chanter. Il a créé des chansons, il les chantait dans les places, dans les cafés, etc. Et donc vous avez tout, c'est ça qui j'ai trouvé absolument émouvant, c'est que ce sont c'est le peuple, si vous voulez, dans sa diversité,
qui s'est réapproprié quelque chose.
Voilà, c'est-à-dire qu'ils ont découvert Mistral, parce que Mistral a été leur soleil, et ça les a convaincus que l'on pouvait écrire une belle littérature, une littérature digne de ce nom, surtout de la poésie, grâce à cet exemple. Et on trouve aussi, je vais pas citer tous les noms, mais vous avez des gens qui étaient boulangers, qui étaient pâtissiers. J'ai parlé de Michéo de Camelat, par exemple, qui était béarnais. Lui-même a été épicier toute sa vie.
Oui, donc quelque chose de très populaire comme production, à la différence peut-être, j'en reviens à eux, de la production des troubadours qui a,
voilà,
ouais, elle, quelque chose d'aristocratique.
Ah bah, c'est, tout à fait, c'est très élitiste.
Par ceux qui la composent, pardon, et ceux aussi qui l'écoutent ou qui la lisent.
Ah oui, absolument. C'est une littérature de cour et extrêmement sophistiquée, y compris sur le plan musical. Parce qu'il ne faut pas oublier que les troubadours ne sont pas que des poètes, ce sont des musiciens. Oui. Et j'ai eu la chance d'avoir pour maître Jean Maillard, qui était un musicologue et un spécialiste des troubadours sur le plan musical. Il a écrit un article de référence qui s'intitule « Trésor, bilan d'un trésor mélodique à propos des troubadours ». Et je me souviens qu'il n'hésitait pas à comparer Bernard de Ventadour à Mozart.
Ah oui, donc nous sommes véritablement dans les très hautes sphères d'une poésie lyrique, au sens propre du terme, qui traite non seulement de l'amour de loin plus précisément, mais aussi de multiples autres thèmes qu'on a parfois tendance à oublier dans cette poésie des troubadours.
Oui, alors il y a l'amour profane, mais il y a aussi l'amour sacré, parce que effectivement, un certain nombre de textes finalement renvoient à la théologie chrétienne la plus classique, enfin de l'époque, hein, c'est-à-dire que des éléments mystiques, des éléments même d'ordre alchimique, qui ont été étudiés par plusieurs universitaires, qui ont mis ça en évidence, parce que les occitanistes, pardonnez-moi de revenir à leur sujet, mais ils ont voulu nous faire croire que tous les troubadours étaient plus ou moins cathares, et etc. Oui. Donc il y en a eu, c'est vrai, surtout des troubadours mineurs, mais les principaux, en réalité, sont chrétiens. Alors je peux pas vous assurer qu'ils aient été d'une orthodoxie parfaite, ce n'est pas la question, mais enfin il est question de Dieu, il est question des anges, on retrouve les thèmes chrétiens fondamentaux.
Bien sûr, et si vous citez, je pense, le phénomène du catharisme, c'est qu'avec lui, peut-être s'est interrompu, ou en tout cas a décliné, cet âge d'or.
Alors il a fallu, si j'ose dire, plusieurs siècles pour ça. Ça a été une catastrophe locale, hein. Ça c'est évident. Mmh. Il y a eu des villes dévastées, enfin le sac de Béziers, Toulouse, c'est absolument monstrueux ce qui s'est passé à ce moment-là, donc début 12e siècle. Mais il a fallu que plusieurs siècles, enfin au moins un siècle, pour que tout ça effectivement s'effondre, parce que c'était un petit peu comme une mosaïque sur le plan de la construction féodale, sur le plan politique, et c'était une mosaïque qui était fragile. Les équilibres étaient fragiles, d'autant plus que ces bons barons, ces bons comtes, vicomtes, etc., cherchaient toujours à étendre leur territoire. Donc tout ça était très, très, très fragile. Et c'est vrai que la croisade contre les Albigeois, ajoutée à l'Inquisition, effectivement, il y a eu un changement de civilisation.
Alors, je vous propose, Stéphane Jocanti, de reprendre dans une seconde émission cette question du déclin, pour ne pas dire de l'extinction de la poésie des troubadours, parce que cette hérésie cathare a véritablement marqué un moment de rupture dans le caractère effervescent, brillant de ces deux siècles qui ont donné à la littérature ou aux littératures doc leurs lettres de noblesse.
Oui, absolument.
Eh bien, écoutez, nous reprendrons notre propos, nous suivrons les troubadours et nous irons aussi du côté de Mistral et nous parviendrons jusqu'à la littérature doc moderne, voire contemporaine, dans une seconde émission. Je ne saurais trop conseiller la lecture de cet ouvrage publié aux éditions du CERF, « La Renaissance du Sud, la grande épopée des littératures doc ». Merci Stéphane Jocanti.